c'est l'heure de l'émission Dialogue entre Congolais avec Alain Roux.
Bonsoir. Situation sécuritaire dans les deux Kivu. Dans Nord Kivu, certains groupes armés locaux manifestent leur volonté d'intégrer les FRDC. L'objectif, selon eux, est de mettre fin à l'insécurité dans les secteurs qu'ils contrôlent et de participer à la reconstruction du pays. Au sud Kivu, par contre, l'ONG Initiative Congolaise pour la Justice et la Paix dénonce le recrutement des jeunes au sein des groupes armés. Elle indique que ce recrutement renforce les groupes armés et fragilise le processus de recrutement au sein de l'armée régulière. Comment analyser cette situation? Que faut-il pour mettre fin à la problématique des groupes armés en RDC? Pour en parler, nous recevons Maître Feller Lutai Chirwa, vice-gouverneur de la province du Nord Kivu. Maître Lutai Chirwa, bonsoir.
Bonsoir Alain.
Professeur Arsène Mouaka, député national de l'opposition et cadre du parti politique DCFN. Professeur Mouaka, bonsoir.
Bonsoir Alain.
Professeur Dominique Wert, professeur à l'université de Liège en Belgique. Il est consultant de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Professeur Wert, bonsoir.
Oui, bonsoir. Bonsoir à tout le monde.
Merci chers auditeurs et internautes pour vos réactions. Kairi Matembera de Kalemie au Katanga, j'encourage l'intégration des groupes armés dans l'armée régulière, mais il faut que les autorités puissent assumer leurs responsabilités. Michel Emema de Kisangani, en province orientale, le problème des groupes armés dans le Kivu ne prendra pas fin tant que le gouvernement congolais n'a pas encore réglé le problème de chômage et des salaires insignifiants de sa population. Merci de votre fidélité et à tous, bienvenue dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Je le disais dans le sommaire au Nord Kivu, certains groupes armés locaux manifestent leur volonté d'intégrer les FRDC. L'objectif selon eux est de mettre fin à l'insécurité dans les secteurs qu'ils contrôlent et de participer à la reconstruction du pays. Jusqu'à là, trois groupes, il s'agit de l'Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain, du colonel Janvier basé à Lukweti dans le Masisi, l'Enyatura milice Hutu se trouvant dans le même territoire et les forces de défense du Congo au guide évoluant dans le Walikale qui se disent aussi prêts à rejoindre les FRDC. Quelques préalables restent toutefois à lever. Le point avec vous, Sifa Maguru.
Lors d'une réunion tenue à Goma entre les autorités provinciales, les responsables de l'armée ainsi que ceux des groupes armés engagés dans le processus, il a été convenu un certain nombre de choses pour concrétiser ces processus d'intégration. C'est notamment que le gouvernement provincial du Nord Kivu va assurer la prise en charge des éléments de ces groupes armés en attendant l'intégration. Ensemble, ils ont convenu que le centre de regroupement pour l'APCLS sera à Sake et Bweremana, tandis que leur intégration se fera à Nyabiondo et Kalembe sur l'axe Mouessou. En attendant, il a été demandé à l'APCLS, dont les troupes sont estimées à 9000 hommes, de se retirer sur l'axe Kalembe-Pinga afin de permettre aux FRDC de se redéployer dans ces zones pour y remettre de l'ordre. Quant aux Nyatura et les FDC, plusieurs autres localités ont été choisies pour leur regroupement. Selon des sources de l'armée, des fiches d'enregistrement vont être bientôt distribuées aux chefs de ces groupes armés afin de procéder au recensement des troupes et connaître leur nombre exact avant toute intégration. Goma, Sifa Maguru, Radio Capital.
Merci Sifa Maguru. Notez comme un moment au sud Kivu, l'ONG Initiative Congolaise pour la Paix, ICJP, dénonce le recrutement des jeunes au sein des groupes armés Raia Mutomboki, Nyatura et Maimai Kirikicho en territoire de Calais. Selon le responsable de cette organisation de défense des droits de l'homme, ce constat a été fait suite à une enquête diligentée par les structures relais de cette organisation basée à Calais. ICJP indique que ce recrutement renforce les groupes armés et fragilise le processus de recrutement au sein de l'armée régulière. Maître Feller Lutai Chirwa, je rappelle que vous êtes vice-gouverneur de la province du Nord Kivu. Des groupes armés au Nord Kivu qui émettent le vœu d'intégrer les forces armées de la République démocratique du Congo. En même temps, au sud, c'est l'inverse, avec des groupes armés qui recrutent des jeunes. Quelle analyse faites-vous de cette situation?
En fait, fait, Alain, il se fait qu'au niveau de la province du Nord Kivu, nous avons joui du bénéfice de la présence du chef d'État chef d'État-major force terrestre, le général Amissi. Et pendant son séjour, et comme vous le savez, nous avons une partie du territoire de Massissi, du territoire de Rutshuru, et qui est sous occupation du M23 et alliés. Et cela nous interpelle. Il se fait peut-être que par cette occupation-là, nous ayons pris l'avance de réfléchir sur comment réduire la nuisance des groupes armés constitués de nationaux. Alors, nous avions utilisé une approche mutualiste, donc communautaire, en essayant un peu d'interpeller le leadership des différentes communautés au niveau de nos différents territoires. Nous avons commencé par le territoire de Massissi, et à travers un grand atelier à Massissi, tous les groupes avaient souscrit à un engagement de cessation des affrontements, de cessation des hostilités et d'intégration dans les FARDC. Et alors après cet engagement-là, il fallait définir des actions d'accompagnement de ces intentions-là. Et voilà donc ce qui s'est fait au niveau de la province du Nord Kivu. Il y a un processus déjà amorcé avec APCLS, avec les Nyatura et les FDC au niveau du Nord Kivu, parce que pour la plupart des groupes armés, ils se retrouvent déjà dans l'étape de regroupement au niveau de Mushaki, au niveau de Nyabiondo et au niveau de Kachebere. Donc voilà, là.
Alors, monsieur le vice-gouverneur, on se souviendra qu'en 2009, autour des accords du 23 mars à Goma, c'est là qu'il y avait la grande messe de tous les groupes armés qui souhaitaient intégrer, déposer les armes, intégrer l'armée nationale, intégrer la vie politique. Mais on se souvient comment ça s'est terminé avec la création du M23. Aujourd'hui, est-ce que l'approche adoptée à l'époque était mauvaise, ou qu'est-ce qui vous fait dire que l'approche communautaire que vous avez adoptée cette fois-ci est la bonne?
Au fait, l'approche communautaire essaie un peu d'être conjuguée avec tous les efforts diplomatiques, parce que au niveau de l'Est ici, nous sommes aussi victimes des enjeux sous-régionaux. Et nous considérons qu'avec avec l'attente de la force internationale neutre, avec l'équipe militaire d'évaluation conjointe, avec le centre de fusion des renseignements installé à Goma, ici au Nord Kivu, on pense que les angoisses liées aux enjeux sous-régionaux pourrait mieux être abordé à travers l'approche diplomatique et avec les résultats qui sont escomptés et qui sont promis, et dans un délai de 3 mois tel que vous êtes en train de le suivre. Et nous avons considéré que cela et cette dynamique-là était un enjeu qui pouvait aider à sensibiliser le leadership communautaire pour qu'on essaie un peu de dissiper les différentes angoisses peut-être qui n'avaient pas été abordées en 2009.
Nous allons prendre cette réaction qui nous vient de Bounia en province orientale pour vous, monsieur le vice-gouverneur.
Kassamba Wanango, Bounia, Ituri et la province orientale. Tant que les ethnies du Nord et Sud Kivu vivront dans la méfiance les unes des autres, le phénomène groupe armé ne disparaîtra pas. La condition sine qua non de la disparition de ces groupes armés est que ces ethnies s'acceptent, car elles sont condamnées par la communauté de destin à vivre sur cet espace du Kivu tant que la planète Terre vivra.
En adoptant l'approche communautaire au Nord Kivu, M. le vice-gouverneur, peut-on comprendre que les revendications identitaires priment sur les causes économiques en ce qui concerne la création des groupes armés?
Bon, en fait, il y a une donne dont on parle très peu. Il faut retenir que l'Est vit aussi un enjeu particulier qui est un enjeu sous-régional. La pression démographique de l'Est vers l'Ouest et particulièrement du Rwanda vers certains territoires de l'Est. Et il faut retenir que la plupart des communautés qui font partie des communautés composant les territoires de l'Est, et il y a des communautés qui continuent à prendre de l'ampleur et à gonfler sur base de la pression démographique de l'Est et particulièrement du Rwanda. Et alors, il se fait que avec cet enjeu-là non encore stabilisé, cela constitue pour le gouvernement et pour nous les autorités un défi considérable et avec lequel il faut composer, un défi qu'il faut relever.
Professeur Arsène Mouaka, vous êtes député national de l'opposition et cadre du parti politique DCFN. Vous venez de suivre Monsieur le vice-gouverneur Feller Lutahi-Chirwa. Et pour vous, comment vous analysez cette situation au nord et au sud Kivu?
Oui, en fait, je voudrais saluer tous les amis avec qui on est dans ce débat et souligner en fait que c'est depuis bien longtemps que on fait la même chose. Et on ne s'arrête pas pour essayer de dire pourquoi on fait la même chose et ça ne réussit pas. Il est vrai que nous venons de suivre le vice-gouverneur qui montre qu'il y a une certaine innovation, notamment ce qu'il a appelé l'approche mutualiste, communautaire. Et je me dis, c'est des choses connues. Le Nord Kivu a connu ce genre de problèmes. Il y a eu des ateliers où on a essayé de faire parler les communautés, les faire dialoguer. Finalement, on a intégré les armées et puis finalement, ce sont les mêmes personnes qui étaient dans l'armée qui retournent à Brousse, parce que tous ces chefs rebelles, tous ces chefs miliciens dont on parle, mais c'est des éléments de FARDC qui sont intégrés et qui retournent à Brousse.
Et donc, pour vous, le diagnostic a été mal posé?
Je me dis qu'on a colmaté. Une fois encore de plus, c'est juste du colmatage, c'est-à-dire on éteint le feu, mais on ne résout aucun problème. Et de ce point de vue, je voulais souligner en fait que si au Nord Kivu aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où les milices sont en train de vouloir réintégrer l'armée, je me dis c'est un cycle qui est respecté. À d'autres termes, il y a 5 phases à travers lesquelles la miliciarisation procède au niveau du Nord Kivu. Dans un premier temps, il s'agit d'une révolte personnelle. Un individu se révolte pour voir comment son État est incapable de faire quoi que ce soit et il se sent menacé, eh bien, il se révolte. Dans une deuxième étape, il intègre une milice. Et il y entre et il croit que c'est la solution. Mais il y entre dans une troisième phase, il trouve qu'il y a des enjeux qui parfois n'ont rien à voir avec l'objectif qu'il y a amené. Et par conséquent, il réfléchit. Et c'est là qu'on voit la quatrième phase qui consiste à voir des défections et parfois des démultiplications des milices. Et en dernier lieu, généralement, c'est ce qui suit, c'est l'intégration. Et donc, on démultiplie, et quand on se fatigue, on demande d'intégrer l'armée nationale, et on essaie un peu de voir ce qu'il y a dans l'armée nationale, et le cycle recommence. Et donc, on entre dans l'armée nationale, on se révolte encore, et on repart encore dans une intégration d'une nouvelle milice, et ou la création d'une nouvelle milice, et puis on découvre que les enjeux ne sont pas nécessairement les mêmes, on refait défection, on intègre l'armée, et ainsi de suite. Et donc, au Nord Kivu, le cycle est à sa fin, alors qu'au Sud Kivu, ils sont à début du cycle. Ils constatent que l'armée nationale n'est pas capable de bouter dehors les M23 qui qui progressent, ils se disent prenons des dispositions, puisqu'on ne sait pas ce que nous allons nous devenir demain, et du coup c'est le recrutement, et on fait beaucoup plus confiance à ces milices qui se présentent comme une solution à la révolte généralisée, et finalement les cycles recommencent aussi pour ceux-là.
Alors professeur, il y a Jean Faustin Tassilé Akuma qui nous écrit de Kisangani en province orientale qui dit la RDC n'a pas à ces jours besoin de distraction, cependant tous ces groupes armés de l'Est nous distraient avec leur va-et-vient. Tantôt ils font des défections, tantôt l'intégration, que les FARDC fassent attention avec ces groupes armés qui pillent les richesses du pays et sans objectif. Leur objectif est tout simplement de vider notre beau pays de ses richesses. Professeur, vous venez de parler d'un cycle infernal dans lequel on retombe au nord et au sud Kivu. Faut-il douter de la bonne foi de ces groupes armés?
Non, je ne parlerai pas comme notre ami. Je crois que notre ami, quand il parle, il fait référence aux groupes armés comme le M23, comme le FDLR et tous les autres groupes qui ne sont venus que dans notre pays pour assouvir à leur fin. Mais il y a des gens qui sont de bonne foi et qui se disent « notre pays ne peut pas être vendu ». Et ils se disent, le gouvernement n'organise pas bien les choses, je décide d'aller en brousse. Il y en a, ils sont de bonne foi. Et finalement, c'est comme je venais de le dire, ils arrivent en brousse, ils trouvent qu'il y a plus que cette révolte-là. Et finalement, c'est des gens qui, à la fin du cycle, se disent, il faut réintégrer l'armée. Mais ce que je voulais souligner, c'est que nos gouvernants et toute la population doit savoir, c'est que la plupart de ces gens qui viennent réintégrer de nouveau l'armée étaient dans l'armée. Ils se sont révoltés de l'armée, ils l'ont quitté. Et certains même, ils ont même intégré le M23. Ils sont revenus, ils ont quitté encore le M23 pour constater que même le M23, c'est pas la solution. À d'autres termes, où se trouve le réel problème? Je crois que c'est la véritable question que chacun de nous doit se poser.
Alors, professeur, la conférence de Goma de mars 2009 ne devrait-elle pas répondre à cette question?
Oui, mais je crois que la conférence de Goma est passée à côté de son objectif, puisque la conférence de Goma a créé de nouvelles bandes armées. Cette conférence a généré de nouvelles bandes armées, elle n'a pas résolu, au contraire, elle a compliqué, puisqu'à partir de cette conférence, d'autres groupes armés sont nés. Et c'est là qu'il faut déplorer ce cycle qui veut que, à chaque fois, la solution devient le nouveau problème dans cette situation du Nord Kivu. Et je me dis, il ne s'agit pas d'une distraction, cette situation du Nord Kivu pose un véritable problème de l'organisation de l'État chez nous. Et donc, c'est à ce niveau que se situe le nœud du problème.
Professeur Dominique Wirth, vous êtes professeur à l'Université de Liège en Belgique, consultant de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Comment vous analysez cette situation des groupes armés au nord et au sud Kivu?
Ben, écoutez, la première chose, c'est que, et à mon avis, c'est évidemment pas une nouvelle extraordinaire, mais c'est que on se rend compte, si on fait un petit peu le point sur calendrier, que cela fait vraiment maintenant de nombreuses années que ces groupes armés continuent à sévir dans les territoires du nord du sud Kivu. Et donc, évidemment, ce qui interpelle, me semble-t-il, c'est que cela n'est pas nouveau. Et que donc, même donc si ça dure depuis plusieurs années maintenant, hein, parce qu'on peut vraiment remonter à quelques années, cela veut dire que actuellement, ni les autorités en place, ni la communauté internationale n'a réussi à pouvoir mettre fin à ce pouvoir néfaste des groupes armés. Et donc ça, je pense qu'il faudrait qu'on puisse un petit peu quand même tirer quelques leçons de cet échec de tous les acteurs, qu'ils soient politiques congolais, qu'ils soient politiques au niveau de la région, qu'ils soient internationaux au niveau de la communauté internationale, la MONUSCO, le PNUD, les différentes coopérations des États de l'Union européenne, l'Union européenne elle-même. Il y a actuellement un échec sur l'impact de tous les programmes qui ont été mis en œuvre par rapport à ça.
Et donc, professeur, il y aurait un problème de diagnostic à vous comprendre. Pour vous, quel serait le véritable problème, le professeur?
Écoutez, mais Non, je pense que ce n'est pas tellement un problème de diagnostic, je pense. C'est plus un problème de compréhension de la situation sur le terrain et des interactions communautaires dans les deux Kivu qui fait que aujourd'hui on n'a pas réussi à trouver une solution et en tout cas à stopper cette action néfaste des groupes armés. Alors, si je peux un peu m'expliquer, je pense qu'il y a deux questions auxquelles on n'a pas encore vraiment trouvé de réponse. La première question, c'est clairement le fait que ces groupes armés, et on a vu une étude qui a été menée en 2011 sur l'impact de ces groupes armés dans les deux Kivu, qui a été faite par le groupe de réflexion et d'information pour la paix en Belgique. Ben, évidemment, la première question, c'est clairement la situation socio-économique des populations et donc des membres des groupes armés qui vivent dans la région, qui est vraiment catastrophique. Et donc, on avait lancé au niveau des Nations Unies un grand plan à l'époque, mais ce n'était pas au niveau du Congo. C'était au niveau de l'Afrique de l'Ouest, un grand plan en disant vous amenez votre arme légère et on va vous donner un outil qui va vous permettre de pouvoir cultiver les champs. Hein, vous vous rappelez du fameux plan qui avait été mis en place à l'époque par le prédécesseur de M. Ban Ki-moon. Je pense que une des questions, évidemment, c'est l'évolution du pouvoir d'achat, l'évolution réelle du pouvoir d'achat dans des populations et des communautés dans les deux Kivu. Si on arrive à faire en sorte que les personnes qui sont habitantes et qui sont actives pour le développement dans les deux Kivu et même dans tout l'est du Congo, ben, je pense qu'on va pouvoir évidemment régler une partie du problème. Le deuxième, c'est que la deuxième question qu'il faut se poser, et moi je me positionne notamment vis-à-vis de la communauté internationale, c'est qu'on a toujours pensé, et notamment par rapport aux accords de Goma de 2009, on a toujours pensé que les personnes qui étaient dans les groupes armés et qui voulaient rejoindre la société formelle, et donc l'État congolais, eh bien, la voie de réintégration dans la société congolaise reconnue et formelle était les forces armées. Et là, je pense qu'il y a eu une grande erreur, parce que la majorité des personnes qui sont encore aujourd'hui actives dans les groupes armés et qui l'ont été dans le passé, eh bien, elles veulent avant tout rentrer dans la société civile, mais pas du tout automatiquement dans les forces armées de la République démocratique du Congo.
Mais Monsieur le vice-gouverneur Feller Lutayi-Chirwa, le professeur, vous l'avez suivi, le professeur Wert, qui parle d'un problème de la compréhension des réalités sur terrain. Le professeur Mwaka a insisté sur le cycle et on a l'impression qu'on a affaire à un monstre à plusieurs têtes, des groupes armés qui naissent, qui se font et se défont à tour de bras. Maintenant qu'il y a certains groupes qui manifestent déjà cette volonté de réintégrer les FARDC, avez-vous plus ou moins une idée de tous les groupes armés qui pourraient exister au Nord Kivu, par exemple? Monsieur le vice-gouverneur? Voilà, je crois qu'on a perdu Maître Feller Lutayi-Chirwa, vice-gouverneur de la province du Nord Kivu. La réalisation va tenter de le retrouver. Pendant ce moment, nous allons prendre pour vous, professeur Mwaka, cette réaction qui nous vient de Bukavu au Sud Kivu.
Matumaini Franklin de Bukavu au Sud Kivu. La motivation qui attire les jeunes vers les groupes armés est le chômage dans lequel ils sont plongés. Car en adhérant dans ces groupes armés, plusieurs pensent qu'ils vont gagner leur vie. Mais à côté de ce chômage, il y a l'absence d'une armée capable d'assurer la sécurité de la population civile. Ce qui pousse les jeunes à la création de plusieurs groupes armés diversement baptisé Raïa Tundikomboe, Raïa Mutomboki et Japaz. Et tout cela dans l'objectif de se protéger et suppléer à la faillite de l'État congolais.
Professeur Mwaka, les causes économiques, le professeur Wert a parlé de la situation socio-économique.
Oui, je ne partage pas du tout son analyse. Je crois que au niveau de la communauté internationale, il y a une lecture biaisé qui a été longtemps entretenu et qui est parti des études de Paul Collier au niveau de la Banque mondiale qui a sur base d'une étude économétrique a essayé de démontrer qu'à définitive les guerres que nous avions avaient des motivations économiques. Et donc je crois que le Kivu traverse des conflits qui sont d'abord à l'interne qui sont des conflits pratiquement dans leur basse altitude, qui sont des conflits fortement identitaires. Et donc je crois que ça ne doit pas être perdu de vue au profit de cet économicisme qui caractérise pratiquement la communauté internationale. Je crois qu'il y a des gens qui ont une compréhension autre, qui n'est pas nécessairement économique, de la colline. La colline a une valeur autre que économique. Elle est aussi symbolique. C'est-à-dire que quelqu'un dit « ici chez moi », c'est au-delà de dire que « ici c'est ma poche ». Je crois qu'au Kivu, c'est d'abord l'identification à un espace. Et quand on dit qu'on va vous prendre votre espace, on ne dit pas qu'on vient vous prendre votre argent. Il est vrai que notre gouvernement et beaucoup d'autres personnes agitent pour dire qu'ils viennent prendre la richesse. Mais je crois que quand on rentre dans le bas peuple, je crois avoir mené plusieurs études là-dessus et des enquêtes où la première des choses, c'est pratiquement cet attachement que les populations à une terre qui est qualifiée d'une terre ancestrale. Et donc, je crois que ce n'est pas si économique que ça. De deux, je partage entièrement l'analyse du professeur Dominique quand il dit que la plupart des jeunes n'aspirent pas nécessairement au métier des armes. Je crois que si on analyse l'intégration de la plupart des Kivusiens depuis la FDL jusqu'à ce jour dans l'armée, la tendance est de quitter à chaque fois qu'ils sont dans l'armée et qu'ils ne se retrouvent pas, ils quittent. Nombreux quittent. Et donc, je suis totalement d'accord avec lui quand il dit pourquoi croire que la solution c'est l'intégration dans l'armée? Parce que c'est comme si on nous a ensorcelés. Vous essayez une chose, elle ne marche pas et vous l'essayez toujours. On a toujours essayé l'intégration depuis 1960 puisque l'insurrection ne date pas d'aujourd'hui. L'intégration dans l'armée avec un cadeau de grade, c'est un truc expérimenté depuis l'indépendance. Ça ne marche pas jusqu'aujourd'hui. Notre gouvernement aveugle continue la même chose. Je crois qu'il y a un moment où on doit s'arrêter et dire est-ce qu'on doit continuer à faire la même chose qui ne réussit pas. Et c'est à ce niveau que je me dis, Franklin a en partie raison parce qu'il dit à la fin, les gens pensent qu'ils doivent se prendre à charge puisqu'il y a un gouvernement incapable. Le premier ministre, on le voit chaque lundi dans ce qu'il appelle Troïka stratégique, en train de parler de l'argent, en train de parler de la stabilité macroéconomique. Il parle de comment il bancarise les choses, comment il va dédollariser la vie économique au Congo. Jamais de la guerre, jamais. Le premier ministre est en dehors de ce qui se passe au Kivu. Il est en dehors de la pacification. Et le gouvernement est en dehors de ça. Mais qui s'occupe de la guerre? Qui s'occupe de l'insécurité? Qui s'occupe de ces milices? Maintenant, on nous apprend que c'est un général accompagné par un gouvernorat qui remplace tout un gouvernement, qui remplace des gens qui ont prêté serment. Le chef de l'État a prêté serment. Il doit être devant dans cette affaire. Il a prêté serment de garantir l'intégrité territoriale, d'assurer la sécurité, ainsi de suite. Il est où? Est-ce que c'est ce général-là qui a prêté serment? Et donc, je crois qu'il y a, ça ne va pas. On ne sait pas identifier le vrai problème. Le pays souffre d'une maladie. Les gens croient que c'est la malaria, alors que peut-être ce sont des amibes. Et là, je crois qu'on se trompe. Et je suis d'avis qu'on se trompe des diagnostics.
Voilà, nous allons directement attaquer à la deuxième partie de cette émission. Le secrétaire d'État adjoint américain chargé des affaires africaines, Johnny Carson, appelle le président Joseph Kabila à, je cite, « éradiquer tous les groupes armés dans son pays ». Plus de détails avec vous, Kéline Couté.
Hier lundi, lors d'une conférence de presse téléphonique accordée aux médias, notamment sur la situation sécuritaire en RDC et au Mali, Johnny Carson, secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines, a affirmé que le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, a également sa part des responsabilités dans la crise qui secoue l'est de son pays et doit, selon l'homme d'État américain, démanteler les groupes armés qui opèrent contre le Rwanda. En RDC, les défis du président Kabila sont importants, mais ses responsabilités responsabilités le sont tout autant, a dit le diplomate américain, appelant le président congolais à, je cite, éradiquer tous les groupes armés dans son pays. Fin des citations. Toujours au cours de cette conférence de presse, Johnny Carson a aussi prévenu que chacun des États et des dirigeants de la région ont des responsabilités. Le responsable américain a répété cette fois à l'adresse du Rwanda que Kigali devait, je cite, dénoncer les rebelles du M23 qui déstabilisent leurs voisins congolais. Fin des citations.
Merci Kevin Kouté. Maître Feller Lutaïchiro, je rappelle que vous êtes vice-gouverneur de la province du Nord Kivu. Est-ce que vous êtes en ligne? Vous nous suivez?
Oui, je vous suis, Alain.
Voilà.
Maintenant, la ligne est établie.
Voilà, merci beaucoup. Vous avez suivi l'appel du secrétaire d'État adjoint américain chargé des affaires africaines, Johnny Carson, qui en appelle au chef de l'État pour qu'il prenne ses responsabilités et démantèle les groupes armés. Le professeur Mwaka a également insisté sur la responsabilité du chef de l'État dans cette situation. Que faut-il finalement pour mettre fin à la problématique des groupes armés en RDC?
Bon, d'abord, la déclaration, elle est étonnante, parce que non seulement la République démocratique du Congo et à sa tête le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a travaillé pour réduire la menace qui pesait contre le Rwanda, c'est-à-dire les FDLR. Non seulement il y a eu une pression militaire des FARDC, mais vous êtes informé que il y a eu aussi des opérations conjointes, des mécanismes conjoints à partir de Umoja Wetu. Donc le pouvoir congolais est allé plus loin que ce qu'il fallait, et il y a des résultats, et ces résultats-là sont avalisés par les deux gouvernements. Et il y a des statistiques qui parlent. Au début, quand le Rwanda examinait la menace, le Rwanda parlait de 6 000 à 8 000 FDLR qui seraient sur le sol congolais à l'est. Et depuis les opérations, avec les rapatriements de ceux qui se livraient au niveau de la MONUSCO et ceux qui étaient capturés et tous ceux qui se sont rendus, il est dit que les FDLR, en tout cas évaluation conjointe, ne dépasserait pas 800 à 600. Et cela ne constitue pas une menace contre le Rwanda, et ça ne pourrait pas constituer un prétexte sérieux. Et c'est assez donc étonnant que ces hauts diplomates puissent dire, voilà, il y a une menace contre le Rwanda. Les FDLR ne tuent que des Congolais. Les FDLR ne violent que des Congolais. Et ces menaces-là, que ce soit le M23, que ce soit les FDLR, c'est au Congo où ces groupes armés sévissent. Et en contre-coup, motive que il y ait aussi des groupes armés locaux qui s'organisent pour essayer un peu de s'autodéfendre. Et donc, nous pensons que le problème trouve sa source au niveau du Rwanda. Et le point de départ, ce n'était que l'hospitalité congolaise, alors zaïroise en 1994. Et nous pensons que ça, c'est un faux problème. Par contre, il faudrait se diriger d'où le problème a surgi pour trouver des solutions. Et c'est pour ça que le gouvernement continue les pourparlers et le mécanisme diplomatique avec Kigali, mais aussi avec la sous-région dans le cadre de la CIRGEM, pour voir si on peut trouver une solution à ce problème.
Monsieur le vice-gouverneur, avec les groupes armés qui ont manifesté leur volonté d'intégrer les FARDC, il y a déjà une démarche qui a été amorcée de votre côté. Ils sont déjà dans un centre, ainsi de suite. Mais le professeur Mwaka a dit que depuis longtemps, on faisait la même chose et on avait les mêmes résultats, comme si on était ensorcelé. Je lui emprunte le terme. N'y a-t-il pas crainte de retomber encore dans le même cycle. Vous avez commencé un travail, mais il y aura après, on va assister à des défections, ainsi de suite. Est-ce que vous avez le budget, vous avez le moyen pour cela?
Bon, d'abord, du point de vue de la même chose, nous disons non, parce que au niveau de la conférence de Goma, la conférence de Goma s'était concentrée sur des problèmes internes. Et la conférence de Goma n'avait pas intégré les enjeux sous-régionaux. Alors, au niveau de la diplomatie, il faut retenir que l'attente de la force internationale neutre constitue une opportunité pour qu'on puisse sensibiliser les groupes armés d'autodéfense de ne pas se nuer en force négative comme le M23 est déjà qualifié ainsi, comme les FDLR, comme les Nalu, et alors là je parle de la province du Nord Kivu, donc je prêche pour ma paroisse, et nous considérons que ces groupes armés dits d'autodéfense, les Nyatura, APCLS, les FDC et les autres, comprennent dès qu'on les sensibilise à travers le leadership des communautés dont ils s'identifient, comprennent que le moment est arrivé pour qu'ils puissent intégrer définitivement les FARDC et réduire ainsi les menaces qui pèsent sur l'intégrité territoriale à l'est du Congo.
Professeur Dominique Wert, je rappelle que vous êtes professeur à l'Université de Liège en Belgique, également consultant de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Nous allons prendre pour vous, professeur, cette réaction qui nous vient de Mbandaka à l'Équateur.
Depuis Mbandaka dans la province de l'Équateur, l'intégration des groupes armés au sein des FARDC pour mettre fin à la crise dans l'est du pays est salutaire. À mon humble avis, pour bien remplir sa tâche de veiller à la sécurité intérieure et extérieure de l'État, l'armée doit être à l'abri de toute influence politico-idéologique, de toute prédominance clanique, tribale ou provinciale, pour bien bénéficier l'appui de tous les Congolais, indispensable à l'efficacité d'une armée et à la puissance d'un État. Considérant la nécessité de réadapter les méthodes de travail de notre armée au contexte de la démocratie pluraliste, le recrutement au sein de l'armée doit se baser sur les principes de son caractère national et apolitique avec des critères objectifs pour être réellement au service de la nation.
Professeur Ward, est-ce que le recrutement, par exemple, s'il était basé, comme dit cet auditeur, sur les principes d'un caractère ayant un caractère national et apolitique, est-ce que ça pourrait contribuer à mettre fin à la problématique des groupes armés?
Oui, je pense que c'est une bonne idée, évidemment. Et ça me permet de rebondir sur ce que disait votre invité par rapport au fait que j'aurais éventuellement gommé les questions identitaires et communautaires dans mon propos tout à l'heure. Non, je suis d'accord avec lui. Il y a évidemment aujourd'hui, au-delà de la question socio-économique et du développement socio-économique de ces deux régions de manière officielle et formelle et dans les règles de l'État congolais, au-delà de ça, je suis entièrement d'accord sur le fait qu'il peut y avoir aussi dans la constitution de certains groupes armés une volonté de constituer ces groupes sur une base communautaire ou identitaire. Maintenant, évidemment, je pense que si on veut reconstruire et en tout cas éradiquer ces groupes armées qui sont aujourd'hui informelles et incontrôlées, si on veut les éradiquer, ben, une des solutions au cas où il y a une partie de ces personnes qui veulent réintégrer les forces armées de la République démocratique du Congo, mais bien entendu qu'il faudra à ce moment-là qu'il y ait un recrutement tout à fait objectif et basé, bien entendu, sur les compétences des uns et des autres, et qu'on ne nomme pas comme ça, de manière un petit peu inconsidérée, des officiers supérieurs parce qu'ils ont été des chefs de groupes armés, et de les nommer officiers supérieurs dans l'armée, dans les FRDC, quoi. Donc il va falloir, bien entendu, qu'on ait à ce niveau-là un recrutement objectif. Maintenant, je maintiens quand même mon idée que, et pour l'avoir vécu, notamment avec le programme à Manileo, et puis qui s'est transformé en programme Starec sur la reconstruction à l'est du Congo, je maintiens quand même l'idée qu'il va falloir qu'on mette le paquet, pour être un petit peu un peu direct, qu'on mette le paquet sur un programme massif de réinsertion socio-professionnelle de la majorité des membres qui composent ces groupes armés, afin que, en réintégrant la vie civile, la vie économique, la vie sociale dans les deux Kivu, pour redévelopper d'abord les régions qui ont été un peu attaquées, qui ont été un peu quand même mises en difficulté. Merci. Pour reconstruire ces régions-là et faire en sorte que demain les deux Kivu redeviennent, enfin, ou même tout l'est du Congo, hein, parce que il faut pas uniquement se focaliser sur les deux Kivu, mais qu'on ait une reconstruction avec tous les métiers qui permettent de pouvoir participer à la reconstruction de toute cette région de l'est du Congo. Voilà.
Merci. Professeur Arsène Mwaka, vous êtes député national de l'opposition, cadre du parti politique DCFN, et signalez en même temps qu'il nous reste moins de 3 minutes pour terminer cette émission. Et il y a Bernard Itunda de Walikale Nord qui vous dit: je pense que la problématique des groupes armés et leur processus d'intégration ne réussiront pas tant que certaines autorités militaires ne cesseront de considérer cette question comme du business. L'Isungi PP de Kisangani en province orientale, c'est très difficile de mettre fin au problème de groupes armés en RDC tant que la vie sociale et des militaires et des civils restent encore précaires, surtout celles des militaires. Le professeur Dominique Huert dit qu'il faut mettre le paquet pour la mise sur pied d'un programme massif de réinsertion sociale, professeur, en guise de conclusion également.
Oui, je crois que le paquet sera mis et on va vider tous les sacs. Et il y aura beaucoup d'argent qu'on va jeter en l'air tant qu'on ne croira pas et qu'on ne comprendra pas que le Congo doit s'organiser d'abord comme un État. Et savoir ce qu'il faut refaire au Congo, c'est d'abord l'État. L'État doit s'organiser, être crédible, fiable. Tous les citoyens doivent se sentir sécurisés par cet État pour qu'ils pensent qu'ils peuvent faire un autre travail. Mais je crois qu'on fera autant de réintégrations économiques, puisque maintenant, sachant que ce n'est plus militaire, on fera autant de réintégrations socio-économiques et ça ne marchera jamais tant que le Congo ne s'organisera pas en un État sérieux.
Et donc tout passe par la refondation de l'État congolais.
Absolument.
Monsieur le gouverneur Feller Lutai Chirwa, quelle est votre conclusion? Faut-il finalement espérer qu'un jour on mettra fin au phénomène groupe d'armée en RDC?
Oui, il se fait que le recouvrement de la paix prend du temps. C'est tout simplement parce que le conflit est congolais à partir de l'accord global inclusif obtenu à Sun City. Le conflit était complexe, eu égard à la multiplicité des protagonistes, mais aussi au nombre impressionnant. Et nous pensons que nous avions battu les records, eu égard au nombre des protagonistes, des belligérants en face lors de cet accord global inclusif. Et c'est pour ça que cela a pu laisser quelques groupuscules qui étaient restés. Le processus est vraiment complexe et surtout à l'aise.
Merci. Merci, monsieur le vice-gouverneur. Professeur Dominique Huert, un mot en guise de conclusion.
Oui, moi j'aurais voulu dire deux choses. La première, c'est qu'il est clair que le le déploiement de ces groupes armés n'est pas uniquement lié à la situation au Congo et qu'il y a évidemment des soutiens extérieurs au-delà des frontières de la République démocratique du Congo.
Deuxième chose.
Ces groupes peuvent encore subsister. Deux, je voudrais dire qu'il faut faire attention à ce que, actuellement, avec l'actualité internationale et politique, on focalise sur le mouvement du 23.
Merci, professeur. Merci, professeur. On est obligé d'arrêter parce que le temps ne nous attend pas. Bonne suite de programme sur Radio Capi. Au revoir.